RCF.
Aujourd'hui, nous allons parler d'une association, qui partage, qui sert et qui rayonne. C'est le Petit Plus avec son président Jean-Philippe Guillaumont. Bonjour.
Bonjour.
Alors racontez-nous, c'est quoi la visée et le charisme de l'association que vous avez créée ?
Nous sommes parents d'enfants dont certains sont porteurs de handicap mental. Il nous arrive aussi de vieillir depuis un certain temps, ce qui fait que la question se pose, est-ce qu'ils doivent rester en milieu familial ou est-ce qu'ils doivent aller en système institutionnel ? Système institutionnel a des capacités, il a aussi des limites. Dans ses capacités, il a des établissements qui sont un peu normés, normatifs, où tout est imposé, c'est-à-dire que c'est l'institution qui fait la règle. Dans la famille, c'est la famille qui fait la règle. Et on cherchait une solution intermédiaire où on n'est pas, où la règle ne soit pas édictée par quelqu'un d'en haut, mais qu'elle se five à partir de ce que eux, ils sont capables d'apporter. Et donc on a réfléchi, on avait déjà réfléchi sur Lourdes où on habitait auparavant. On avait monté une association qui s'appelait la Fraternité Bernadette, normale à Lourdes. Et puis, de retour en Vendée, puisque nos enfants, nos petits-enfants sont en Vendée, nous avons essayé de relancer des familles pour savoir si un projet d'habitat inclusif, puisque c'est le terme qui est donné, permettrait de leur offrir un espace où grandir, que ce soit pour faire des activités, parce qu'ils ont besoin de vivre des activités, mais surtout un espace d'autonomie où ils pourraient développer toutes leurs capacités, que l'on découvre souvent faibles au départ parce qu'on voit les limites. Et en fait, derrière, il y a énormément de potentiel si on est capable d'accepter de marcher à leur rythme. C'est un peu ça que l'on cherche à faire. Donc on a lancé l'idée il y a 2 ans d'une maisonnée à La Roche-sur-Yon, parce que pour nous c'est très important d'être en centre-ville pour que ils ne soient pas dans un lieu où on s'occupe d'eux, mais qu'ils soient dans un lieu où ils s'occupent d'eux-mêmes. Et pour ça, il faut réduire les distances, réduire les difficultés. Donc,
notamment les difficultés de transport, d'accès au commerce, etc.
Voilà, exactement, tout à fait. D'accès aussi à tous les services culturels qui peuvent exister, ou même à des petits services qu'ils pourraient rendre en ville. L'idée, c'est qu'ils sont capables, nous on est sûr qu'ils sont capables de nous montrer l'étendue de leurs capacités et de leur envie de le faire. Et d'ailleurs, quand on leur en parle, ils ont déjà envie d'y être.
Pour qu'ils y soient, forcément, il y a un moment donné où il va falloir construire de façon concrète, trouver des financements. De quoi est-ce que vous avez besoin ? De quoi l'association a besoin pour vraiment mener à bien ce projet d'habitat inclusif ?
Alors l'association, au départ, a réfléchi sur ce qu'on voulait vivre. Ça, c'était très important. Une fois qu'on a défini un peu ce que l'on voulait vivre, il faut bien un lieu pour l'incarner. Donc on a cherché dans La Roche une douzaine de maisons. On n'a pas trouvé la maison qui allait bien et les financements qui allaient bien pour la maison. Et en fait, on a fini par trouver une maison qui est en face de la gare de La Roche, boulevard Louis Blanc. Et cette maison, on a trouvé une fondation qui s'appelle la Fondation du Logement Social, qui a acheté la maison, qui réhabilite la maison en fonction de notre besoin. Et donc il y aura 15 chambres dans la maison, il y aura des grands espaces d'activité, de vie commune. Et une fois que l'on a trouvé et réhabilité le lieu, qui sera terminé au mois de septembre, il faut qu'on l'aménage. C'est-à-dire qu'on lui mette une cuisine qui soit adaptée, c'est-à-dire une cuisine où eux pourront faire la cuisine, où pourront il y aura une légumerie, ils pourront préparer leurs légumes, préparer les entrées, les desserts, participer au maximum comme ils le peuvent. Il y aura aussi un monte-escalier parce qu'il faut pouvoir monter à l'étage. Il y aura aussi une cuisine pour les étudiants parce qu'on a prévu dans le projet que le premier étage soit réservé aux personnes avec un handicap mental, qu'on appelle les petits plus. Ils auront chacun leur chambre avec leur salle de bain, ce qui sera le cas aussi pour les étudiants au deuxième étage. Et les étudiants auront en même temps une kitchenette plus particulière parce que les étudiants n'auront pas forcément le même rythme de vie. Donc leur petit déjeuner, leur dîner ne sera pas forcément au même moment. Donc il leur fallait un lieu spécifique.
Mais... Et pourquoi vous avez fait le choix, Jean-Philippe, de vous dire qu'il fallait ce mélange et inclure des étudiants dans la vie de vos petits plus ?
Alors, il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est que nous organisons déjà depuis 2 ans des soirées étudiantes avec des étudiants et donc des personnes handicapées mentales où ils passent simplement la soirée ensemble. Ils n'ont rien, ils n'ont pas de responsabilité les uns vis-à-vis des autres. C'est simplement un partage simple. Et donc, on s'est dit, quand on a trouvé la maison, que ce serait intéressant que ça soit avec des étudiants parce que, d'abord, les étudiants sont d'un âge qui est assez proche de celle des petits plus. Deuxièmement, c'est que ça fait du bien aux petits plus de se retrouver reconnus par des jeunes, parce que les gens ont souvent peur quand même de nos enfants. Et pour les étudiants, je trouve que c'est une grande richesse parce que ça leur permet de descendre un petit peu de leur piédestal, de ne pas considérer qu'ils seront forcément les plus forts, mais qu'ils seront les plus forts en se laissant toucher par la fragilité de l'autre.
Voire même en se laissant complètement bousculer. Hein.
Exactement.
Parce qu'il y a une vérité quand même qui sort de la bouche de vos petits plus qui est assez désarmante et en même temps tellement enrichissante.
Et tout à fait. Et puis se heurter à sa propre impossibilité. Nous, parents, on la connaît. Quand on est de temps en temps face à Jean-Baptiste, c'est très compliqué parce que l'information ne passe pas forcément, la compréhension n'est pas forcément directe, elle n'est peut-être pas du tout là, on n'en sait rien. Il nous échappe complètement. Et en fait, il faut se heurter, se frotter à cette impossibilité pour rentrer dans une relation authentique qui dépasse même le parler. Donc c'est le geste, c'est l'attitude, c'est le comportement, c'est la réaction. Et c'est une école de vie extrêmement importante, parce que la relation, c'est pas forcément la relation verbale de celui qui sait parler. Voilà. Et donc notre objectif, c'était pas forcément d'avoir des étudiants et des petits plus ensemble, mais c'était d'offrir un espace où des rencontres, des relations, des amitiés, dans la simplicité, dans la vérité, puissent se vivre. C'est ça qui compte. Nous, les parents, notre rôle, c'est d'offrir un espace aux enfants pour qu'ils grandissent, mais on ne grandit pas à la place de ces enfants, même de ces enfants handicapés. C'est tout le mystère de la vie, de la relation, et je trouve que c'est une démarche qui est un peu au cœur de l'évangile. Dans l'évangile, Jésus ne fait pas la place des autres. Il les invite à vivre, et d'ailleurs il envoie l'Esprit Saint pour le faire. Nous, on aura bien besoin d'ailleurs de son Esprit Saint pour le vivre, ou pour construire cet espace où eux vont le vivre. Et du coup, pour reprendre les trois termes de l'association, ils vont partager une vie, ils vont se servir, mais se servir les uns les autres, mais aussi servir dans la ville. Quand ils vont aller faire leurs courses dans la ville, quand ils vont aller dans les magasins, quand ils vont aller dans les médiathèques, quand ils vont aller au café avec des étudiants, le regard sur le handicap va changer, non pas parce qu'on aura dit quelque chose, mais parce qu'on l'aura vécu. Donc notre mission, c'est de leur offrir des espaces d'activité, parce que on va leur proposer de maintenir des acquis, donc avec un peu de français, un peu de maths, ceux qui savent lire, c'est bien qu'ils gardent cette capacité. On va aussi leur proposer des activités de travaux manuels, de la mosaïque, du dessin, du vitrail, du bois à couper, à peindre, des jeux à faire, des jeux ludiques qui permettent aussi de garder les capacités intellectuelles. Ils vont aussi pouvoir faire du sport, de la marche, parce qu'il y a des activités sportives à La Roche. Les terres noires sont pas loin, donc il y a plein d'espaces d'activités où non seulement ils vont pouvoir les vivre, mais ils vont pouvoir les partager avec d'autres.
Les partager avec d'autres, il y a les étudiants, mais il y a aussi les bénévoles qui eux aussi sont importants, mais indispensables pour le fonctionnement et de cette maisonnée et de l'association du Petit Plus.
Tout à fait. Alors le bénévolat que l'on cherche, on ne cherche pas des bénévoles qui s'occupent des personnes handicapées. On cherche des bénévoles qui ont envie de partager un savoir-faire, un savoir-être, en disant bah, « moi je sais faire du jardin ». Eh ben, je sais faire du chant, je sais faire de la musique, je sais faire des travaux manuels. Je vais venir leur partager mon savoir-faire et peut-être m'émerveiller de leur façon de prendre, de posséder et de s'accaparer ce savoir-faire qui est le mien et que eux vont développer autrement. Je trouve que ça peut être très riche pour des bénévoles dans tous ces domaines. S'il y en a qui sont intéressés, ben, qui viennent, qui nous contactent hein, à l'association, parce que on est vraiment dans une démarche de bénévolat, non pas pour s'occuper d'eux, mais pour partager quelque chose que l'on a ou que l'on sait faire.
Et vous allez retrouver toutes les infos sur l'association sur le site internet. Alors, c'est www.1 en chiffres, P-T-I. Petit plus tout en lettres .fr. On vous mettra bien évidemment ça sur notre site internet. Merci Jean-Philippe Guillaumont d'être venu nous parler avec tant d'émotion et tant de beauté de cette association que vous avez créée avec votre femme. À bientôt.
Merci de votre accueil.